Et bonjour à tous, bienvenue sur Paris Central. On se retrouve aujourd'hui avec l'un de nos aigris préférés. C'est le retour de Basto dans la chronique qui a beaucoup manqué à beaucoup des personnes qui sont présentes dans le chat de Paris Central. Et c'est également le retour aussi du petit Titi, le Titi du mois. Bienvenue à Soura, comment tu vas?
Ça va tranquillement, on est là, on est présent encore une fois.
Et bonsoir à toutes les personnes, et bonjour plutôt à toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes dans le chat, justement pour ce live qui fait suite au live tirage de la Ligue des Champions que nous avons fait hier avec Knicks, où on a fait un peu un retour en direct sur le tirage de la Ligue des Champions, nos impressions, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. On s'en tire pas trop mal, on va pas se mentir, mais là n'est pas le sujet. Pour commencer, justement, la première question de ce live était justement comment éliminer ce FC Barcelone? Et justement, Basto, je te laisse commencer à répondre à cette question pour commencer.
Comment éliminer ce FC Barcelone? Je pense qu'on a un coach qui a les cartes en main, qui connaît bien ce club. Après, la contrepartie, c'est que le club connaît aussi Enrique Parker. Donc, pas tout à fait pile ou face 50-50. Il y a un peu plus un avantage Enrique peut-être là-dessus, mais attention. Non, le Barça, je pense affiche des faiblesses, des lacunes assez criantes cette saison par rapport à l'année dernière. Une défense qui est beaucoup moins solide que le pouvait l'être l'année dernière. Une équipe qui a du mal à trouver Lewandowski aussi pour finir les actions. Une équipe qui bah, regardez, leurs grands espoirs, c'est Yamal, c'est un gamin, donc ça montre que l'équipe ne va pas bien. Donc comment le battre? Simplement en n'étant pas trop dominé au milieu de terrain. Ça passera peut-être par des ajustements tactiques, mais c'est vrai qu'en plus sans Weirzé et Emery, sans Hakimi pardon, on peut supposer que Emery sera arrière-droit, et donc on se retrouvera avec un milieu peut-être comme contre Nice, avec Ruiz plus Lee. Ça peut être la faiblesse, être trop mangé au milieu de terrain, sinon on doit aller chercher ce qu'on sait faire, c'est-à-dire les ailes avec Barcola et Dembélé, et jouer le plus de 1 contre 1, et Barcelone a du mal à défendre sur ce genre de situation. Donc nous avons les cartes en main pour battre ce FC Barcelone, mais rien n'est fait évidemment.
Soura? Ton micro.
Je pense que la carte qui va être intéressante pour le Paris Saint-Germain, c'est de pouvoir bien exploiter les espaces que va laisser le FC Barcelone. Parce qu'on va être sur deux équipes qui vont être assez joueuses, qui vont vouloir presser et qui vont vouloir récupérer le ballon très vite à la perte de la balle. Donc pour moi, je pense qu'avec nos ailiers, le plus rapidement possible, ça va être de pouvoir utiliser au mieux notre jeu en transition, parce que c'est quand même une de nos plus belles forces cette saison au Paris Saint-Germain. Donc ça va être plutôt important. Les situations de 1 contre 1, notamment Dembélé sur le côté droit, parce que Monsieur Alejandro Balde, c'est peut-être offensivement quelqu'un de très intéressant, mais défensivement, je ne pense pas que ce soit l'assurance tout risque non plus. Donc là aussi, ça va être intéressant de voir à quel point les ailiers seront décisifs dans des situations où ils auront des espaces et ils seront en 1 contre 1. Et c'est là aussi où j'ai envie de voir si Luis Enrique va titulariser Ramos, mais ça sera un sujet qu'on en parlera après. Mais je pense qu'au milieu de terrain et en attaque, il y a quand même des cartes à jouer. Et là où ça pourrait être plutôt intéressant, c'est de voir si on arrive à être solide défensivement. Parce que pour moi, l'attaque du FC Barcelone ne me fait pas peur. Clairement, parce que Lewandowski, quand la télé est allumée en quart de finale de Ligue des Champions, le pied ballon, c'est compliqué. Donc, je pense qu'on a quand même pas mal de cartes pour pouvoir faire mal à ce FC Barcelone-là. D'autant plus que, même si ce n'est pas forcément ce que j'aurais voulu, on commence à domicile. Donc, c'est le moment de vraiment mettre un gros pied à l'étrier pour pouvoir se mettre à l'abri comme on l'a fait face à la Sociedad.
Et justement, maintenant, ça tombe bien, tu arrives pile au bon moment pour conclure, parce que justement, c'est l'arrivée du Giroud officiel du Paris Central, la plus belle barbe de l'émission. Salut Rekoba, comment tu vas?
Ce mec arrive toujours au moment où on conclut le premier sujet pour apporter sa petite touche. Quel est
toujours le bon timing. Bon, le Giroud, par contre, c'est plus le Giroud de Wish, mais merci, c'est gentil.
C'est à cause du chat si tu as la ref. Mais justement, maintenant que tu viens d'arriver, je te pose la même question que j'ai posée à Soura et à Basto avant que tu arrives. Quelles sont, selon toi, les armes pour éliminer ce FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions, Rico?
Je dirais, en fait, c'est un peu les mêmes armes qu'aurait le FC Barcelone pour éliminer le PSG, j'ai l'impression. Parce qu'au final, tu as deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Alors, c'est pas le projet n'est pas au même stade pour les deux, mais il y a beaucoup de fébrilité, que ce soit physique ou mentale, dans les deux parties. Tu as l'avantage pour le Barça de recevoir, mais tu n'es pas au Camp Nou, tu es à Montjuïc. On sait que ce n'est pas la même atmosphère. Il y a quand même une histoire au Camp Nou. À l'extérieur, oui, mais c'est, tu vois, ces dernières années, même dans l'histoire du Barça, c'est pas pareil. Tu vois. Et même pour le Paris Saint-Germain surtout, les déplacements qu'il y a pu avoir au Camp Nou, voilà, on s'en souvient tous. Donc, Donc non, c'est pour moi, il y a déjà une faillite mentale qui est possible, parce que pour moi, je sens ce FC Barcelone quand même très fébrile. Et à partir du moment où tu arrives à prendre l'ascendant et mettre un peu de pression, je trouve que normalement, face au Napoli, il y a ce petit pénalty qui peut arriver. Ça peut être tout un autre match et une disqualification du Barça. Donc ça peut aller très vite. Et comme ça peut aller vite aussi dans le sens du PSG, une petite épine dans le pied fait que tu te retrouves à te faire manger ou à te faire disqualifier ou à te faire reprendre. Après, au niveau, on va dire, du terrain, on va dire tactique, pour moi, les points, ce qui est bien, c'est que les points forts du Paris Saint-Germain sont un peu les points faibles, je trouve, du Barça. Les côtés, défensivement, avec nos côtés, on peut leur faire très très mal. Au milieu de terrain, c'est leur point fort, ils ont pas mal de blessés. Et puis même offensivement, ils comptent beaucoup sur Lamine Yamal. Et je trouve que dans ces quarts de finale-là, il y a quand même un facteur expérience qui joue beaucoup. Ça, tu ne peux pas l'enlever. Il y a beaucoup de pression. Ça se joue à des détails. Et quand tu as 16-17 ans, même le petit défenseur central, tu as beau être bon. Il y a des moments, il y a un facteur expérience qui joue. Et je pense que trop se reposer sur Lamine Yamal peut leur faire défaut. Et puis en face de ça, nous, on a quand même des Nuno Mendes, des Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui connaît très bien Lewandowski. Lewandowski qui n'est pas dans la forme de sa vie. Donc, je trouve qu'on a les clés pour battre ce FC Barcelone. Et ça va être hyper intéressant. Puis on a surtout Luis Enrique aussi qui les connaît très bien.
Vas-y, Basto. Et après, je conclurai sur le sujet.
C'est vrai qu'a priori De Jong devrait revenir contre Paris, mais Gavi et Pedri ne reviendront pas contre Paris. Donc c'est vrai que c'est pour la bataille du milieu qu'on disait, ça joue pas mal. Et Baldé est blessé. Baldé est blessé toute la saison. Soura, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Baldé.
Ah oui, c'est Cancelo qui joue plus à sa place, justement.
C'est Cancelo qui joue à gauche.
Quand
tu vois contre Naples, ils mettent un milieu de terrain avec Christiansen, qui est un défenseur de base, et Firmin. Même si c'est un bon jeune, eux aussi, c'est vrai, je parlais de si nous on devait aligner Ruiz et Lee, mais eux aussi ont les mêmes soucis, donc ça égalise aussi là-dessus.
Ah, puis les côtés Koundé, Cancelo, attention, hein, face à Barcola, Mbappé, Dembélé.
Bien sûr, mais quand même, au-delà du tirage, on joue que des équipes qui ont à chaque fois 50 absents, que ce soit dans les gros matchs de Ligue 1 ou en Ligue des Champions, on s'en sort pas mal peut-être. Quand même, pour le moment.
Ouais, De Jong aussi, il sera très très juste pour le match aller, hein. Donc c'est même pas sûr qu'il soit titulaire.
Il y aura de la prise de risque. Alors justement, ça rejoint un peu ce que je disais hier dans le live, du coup, et moi je vais conclure là-dessus. Quand on parle de comment battre le Barça, moi je vais pas aller dans comment battre le Barça, je vais plutôt présenter les forces en présence, comme ça chacun se fera plutôt son avis à la fin, aussi bien dans le chat que pour les personnes qui sont dans l'émission et ceux qui regardent, ce sera sur Twitter, sur YouTube ou qu'importe. Moi ce que je dirais, je vais un peu répéter ce que j'ai dit là, et hier, c'est on va faire par étapes. Si tu prends les deux équipes et les forces en présence, moi, ce qui m'inquiète le plus réellement, c'est le milieu de terrain du Barcelone qui est supérieur à celui du PSG. Pedri et Gavi absents ou pas. Et il reste encore Gundogan au milieu de terrain. Il reste Frankie de Jong de disponible, mine de rien. Et on voit qu'il y a une animation un petit peu spéciale en ce moment du côté du FC Barcelone, dans le sens où Xavi, il s'est adapté aussi. Il s'est adapté dans le sens où, comme tu l'as dit, Basto, justement, j'allais appuyer sur ce point. Christensen, en ce moment, joue plus haut sur le terrain. Il est capable de jouer 6, mais ça fait que du coup, quand Frankie de Jong est là, je vous renvoie au dernier match où Frankie de Jong avait joué aux côtés de Christensen, tu voyais un espèce de 3-2-4-1. Un 3-2-4-1 avec Koundé, Araujo et Cubarsí dans la surface, avec Christensen qui est en double pivot avec Frankie de Jong, ce qui te permet d'utiliser au mieux Frankie de Jong finalement. Et tu avais justement une ligne de 4 plus élevée avec Cancelo à gauche, avec Yamine Lamal à droite, et tu as deux milieux offensifs en dessous de Lewandowski. Moi, je pense que cette configuration sera gardée, dans le sens où quand vous parliez des latéraux et le manque de vitesse, attention, nanana, moi, je pense que Jules Koundé aura la même mission face à Mbappé qu'il avait face à Kvara, face à Naples. C'est-à-dire qu'on va le mettre arrière-droit, mais ce ne sera pas un vrai arrière-droit, ce sera un défenseur, et il aura clairement pour mission de bloquer le couloir et empêcher les offensives. Moi, ce que j'en pense, je trouverais ça débile d'essayer de les battre dans le jeu du milieu de terrain, dans le sens où c'est littéralement leur point fort et littéralement le point faible du PSG. Moi, peut-être que j'essaierais de plus jouer le fait de garder le ballon bas, les faire venir haut, pour pouvoir mieux exploiter les comptes derrière avec des flèches comme Mbappé et Dembélé et Barcola. Si tu essayes de jouer la possession et de jouer au milieu de terrain, tu te grilles tout seul en fait. Tu te grilles tout seul parce que même s'ils ont des absents, à part Warren Zaïre Emery, je ne vois pas vraiment de milieu de terrain qui pourrait avoir une possible rotation dans l'effectif actuel du FC Barcelone en termes de profil. Donc c'est plus ça qui m'inquiète. En revanche,
Vitinha au Barça, ça peut le faire aussi. En fait, Vitinha est très sous-coté.
Mais il joue dans un profil qui ressemble à celui de Pedri et Frankie de Jong, et j'aimerais bien savoir lequel des deux il prend la place.
Pedri, ils sont blessés, donc dans la rotation, il aurait sa place.
Dans la rotation, mais en termes de profil, il ne saute ni Pedri ni Frankie, donc c'est plus dans ce sens-là, tu vois.
Oui, d'accord.
Voilà. Après, en termes d'attaque, J'estime que le PSG est actuellement supérieur au FC Barcelone. Et moi, plutôt de dire que Lewandowski, dès que la télé est allumée pour faire le troller, je te dirais que c'est un problème qui remonte au FC Bayern, où ben, finalement, dans les plus grands matchs, en effet, Lewandowski, c'est pas sur lui que tu comptes. Même quand il y a eu des PSG Bayern, parce que Lewandowski, c'est pas la première fois qu'il va affronter le PSG, j'aimerais c'est bien qu'on me dise. Voilà, dites-moi les stats de Lewandowski contre le PSG et étonnamment, vous allez être très surpris, vous vous rendrez compte que Coman a marqué contre nous en finale de Ligue des Champions.
Ah, il était pas blessé. Choupo-Moting, il n'était pas blessé la dernière fois quand il y avait Choupo-Moting.
Alors, il avait été blessé sur un match en effet, mais par contre, c'est plus Choupo-Moting, Coman qui vont poser des problèmes au PSG quand on affronte le Bayern que Lewandowski. Et Lewandowski, on va pas se mentir, ça ne date pas d'hier. Il a jamais été le joueur
ni du PSG.
Voilà, ouais, c'est pas le joueur qui est le plus décisif dans les plus gros matchs. Et le récupérer à 35 ans, c'était peut-être pas la meilleure idée aussi du côté du FC Barcelone. Mais ça, c'est un autre problème. Mais en soi, leur défense est quand même supérieure à la nôtre, même s'il y a match. Et au niveau des gardiens, c'est kiff-kiff, mais ils ont des profils au final assez différents. Donc ouais, moi, ce que j'en pense, c'est que...
Il y a un mec qui nous dit Vitinha est bien meilleur que Frankie de Jong, largement même, dans le chat. Oula, j'adore Vitinha. Frankie de Jong, je crois que c'est un des joueurs les plus sous-cotés par les supporters du PSG.
Autant Vitinha est sous-coté, cependant.
Surcoté aussi. Hein.
Alors, calmons-nous, les gars, je ne sais pas de quel Vitinha tu parles, mais si tu parles de Vitor Ferreira Machado, je suis certain qu'il n'est pas meilleur que Frankie de Jong.
Je ne parle pas par rapport à Vitinha, mais attention, pour moi, ça peut aller dans les deux sens. On peut dire qu'il est sous-coté, on peut dire qu'il est surcoté, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le surcotent et beaucoup qui le sous-cotent aussi.
Et mine de rien, malgré les absences probables de Pedri, il faut penser à Gundogan qui, mine de rien, est sûrement la meilleure recrue du FC Barcelone cet été, qui est un joueur qui compte vraiment dans cet effectif. D'ailleurs, bah, l'an dernier, pour ceux qui nous suivaient sur Paris Central avec Basto et Dreyas, on était plutôt pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Il a fait son choix. Il est très bien à Barcelone et pour le coup, on ne peut pas lui reprocher. Il a fait un très très bon choix en ce qui le concerne. Mais voilà, il y a quand même, c'est pas parce qu'il y a des absents du côté du FC Barcelone qu'il faut commencer justement à les prendre de haut et à être vraiment comme si on allait les exploser. C'est pas forcément le cas. Moi, je pense que ce sera une confrontation plutôt équilibrée. Moi, la vraie question que je me pose au final, c'est qui entre Luis Enrique et Xavi sera le mieux géré le fait d'être dominé ? Parce que ce n'est pas des coachs qui aiment être dominés. C'est vraiment des coachs qui sont protagonistes dans leur match et aiment les dominer. Donc, si l'un des deux se retrouve justement à devoir défendre, j'aimerais bien poser la question.
Il y a un autre point clé où on peut essayer de débattre, c'est le vice. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de joueurs qui, s'ils prennent un jaune, sont suspendus au retour. Je pense notamment à des joueurs comme Christiansen, Franky de Jong et Aroro, donc qui sont des défenseurs avec les provocations d'Mbappé, de Dembélé, peut-être de Barcola s'ils jouent. Aller chercher ces mecs-là pour qu'ils prennent un jaune et qu'ils ratent le retour, ça pourrait aussi être une stratégie.
Et justement, parlant de stratégie, ça me mène à la question suivante de ce live, qui était justement, quelle solution au milieu face à ce FC Barcelone ? Est-ce qu'il faudrait un milieu à 4 pour compenser ? Et quand je dis milieu à 4, je parle d'un espèce de losange dans lequel tu aurais été trois milieux et Dembélé qui joue le rôle de faux neuf comme il l'avait fait justement contre la Sociedad, ce qui permettrait de jouer totalement le contre avec Mbappé et Barcola devant ou Mbappé et Ramos. Qu'est-ce que vous en pensez justement ? Et cette fois, je vais demander à Ricoba de commencer, tiens, pour changer.
Bah, juste avant ça, il y a quand même un truc que j'aime bien aussi, c'est que le Barça commence à troller beaucoup. On a vu des messages sur le compte Twitter, etc. Et nous, on ne parle pas, alors, sauf les supporters évidemment. On a commenté le tirage, mais je pense qu'il faut continuer là-dessus, pas communiquer, pas discuter, se concentrer sur nos matchs à nous et faire le match qu'il faut au match aller et au match retour aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un jeu à vouloir trash talk ou quoi que ce soit. Il faut rester humble. On a eu de la chance au tirage, entre guillemets, mais comme les trois autres, parce que je pense qu'on a tous eu de la chance de ce côté-là du bracket, parce qu'on a évité tous les gros, mais que ce soit Dortmund, l'Atlético ou le Barça. Donc, on peut tous dire qu'on a eu de la chance au tirage, et ce n'est pas manquer de respect au Barça, ni le Barça manquer de respect au PSG ou autre, de le dire. Maintenant, pour tout ça, sincèrement, je ne peux pas trop te répondre. Je pense que j'ai encore besoin de voir un petit peu ce que va donner le Barça, parce que du coup, je vais bien les regarder là, les prochains matchs. C'est sûr que ça peut être un avantage, comme on l'a vu face à la Sociedad, de mettre un Dembélé qui vient gêner les premières relances, notamment Frenkie s'il est là. Maintenant, s'il n'est pas là, pour moi, autant jouer avec nos points forts et laisser du coup Dembélé sur les côtés, parce que je pense qu'avoir Barcola Dembélé sur les côtés ou Mbappé Dembélé sur les côtés pour faire mal justement à ces côtés-là, on sait que Cancelo, il a toujours des problèmes d'alignement. Koundé, ce n'est pas le plus rapide sur un côté. Donc, si tu viens chercher des 1 contre 1 sur les côtés, je pense que ça peut faire très mal. Maintenant, à voir du coup si tu mets un plan anti-Frenkie ou pas et si tu veux vraiment gêner la relance du Barça. Et encore faudra-t-il savoir qui justement va être titulaire du côté du Barça pour ce match aller. Mais Est-ce que tu dois absolument faire un plan anti-Barça ou imposer justement ton jeu à toi? C'est toute la question.
Soura, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Est-ce que pour toi, on doit jouer avec un milieu à 4 pour compenser la faiblesse au milieu de terrain ou justement bah, développer autre chose?
Non, je pense qu'il faudra développer autre chose et il faudra peut-être faire un marquage potentiellement individuel sur un des trois milieux de terrain. Mais ce n'est pas forcément la bonne chose pour moi de faire un 4-4 de losange parce que je trouve qu'il faut vraiment exploiter au mieux les espaces et la largeur que peut offrir le FC Barcelone. Et surtout, si tu vas en 4-4 de losange, tu vas devoir avoir une grosse exploitation des petits espaces. Et je ne suis pas sûr que le Paris Saint-Germain soit réellement prêt à pouvoir combiner dans les petits espaces et avoir ces circuits de passe et cette connexion entre les joueurs qui pourra se développer en 2 semaines, ça serait assez compliqué. Donc, le mieux pour moi, ce serait vraiment d'aller sur des ailiers qui vont pouvoir être un peu plus mobiles. Et en plus, si jamais tu joues en 4-4 de losange et qu'en plus de ça, tu n'as aucun réel numéro 9, ça va être encore beaucoup plus compliqué puisque là, derrière, dans ta surface, tu n'auras personne pour pouvoir réceptionner les bons ballons ou aucun joueur pour pouvoir avoir le défi physique et venir attirer les défenseurs. Donc, je pense qu'à 4-3-3 est la meilleure solution. Et je pense que c'est ce qui va arriver puisqu'on verra qui aura le meilleur 4-3-3 et qui va remporter ce duel-là, parce que ça aussi, ça risque d'être assez intéressant et assez vraiment. Je suis assez impatient de voir quel sera ce duel-là de 2-4-3-3 qui vont rentrer en collision. Mais pour moi, je pense que c'est là qu'un Manuel Ugarte, s'il est dans une bonne forme et s'il arrive vraiment à faire ce travail de sape et ce travail de l'ombre sur les milieux de terrain en venant les chercher assez haut par moment, comme il avait pu le faire au début de saison avec l'Olympique Lyonnais, bah là, je pense que ça peut être très intéressant l'utilisation de ce joueur-là. Mais 4 milieux de terrain, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la réelle bonne idée.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça, Basto, justement?
Bon, peut-être qu'on va se faire trouer, mais tu veux faire quoi? De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Comme je dis, avec Emery qui risque de jouer arrière-droit, tu te retrouves avec Ugarte, Vitinha, Lee et Ruiz. Donc, 4 milieux déjà pour ces 3 postes du milieu de terrain. Je ne parle pas du numéro 10 qui pourrait être Dembélé ou autre. Mais moi aussi, j'ai peur que Ugarte, pour répondre à Soura, Ugarte, il a fait des derniers matchs, même si dans l'utilisation du ballon qui n'est pas bon, mais on retrouvait ce Ugarte, notamment à Monaco et certains matchs dernièrement, qui vient presser haut. Malgré tout, tu vois, quand il fait sa compo contre Nice, qui est le match important, Ugarte, il est encore sur le banc pour Ruiz. Donc, j'ai l'impression, pour Ruiz et Lee même, sur ce match-là, donc j'ai l'impression qu'il avait préparé le Barça contre Nice. Enfin, il ne savait pas que c'était le Barça qu'il allait jouer, mais il avait préparé l'absence d'Hakimi contre Nice dans un match à élimination directe en mettant Emery arrière-droit. Ça a été très compliqué, Emery arrière-droit d'ailleurs, donc peut-être qu'il ne va pas se réaventurer. Mais si ce n'est pas Emery, c'est qui? C'est Solaire. Bon, bref, on a toujours ce même problème là-dessus. Donc, non, moi, je reste aussi en 4-3-3. On prendra sûrement des vagues, mais on leur en mettra aussi. Ça va jouer à celui qui sera le plus efficace sur ces 1 contre 1, celui qui en aura le plus et qui l'efficacité. Dembélé, pour moi, contre la Sociedad, comme j'avais dit, collectivement, ça avait été très réussi comme choix tactique d'Enrique, mais individuellement, on voit que c'est quand même pas trop son poste. Et contre Nice, dans ce rôle-là, il m'a pas plu non plus. Donc, je trouve que c'est se gâcher de sa meilleure arme, qui est Dembélé, en le mettant en 10. Surtout dans une équipe comme le Barça, où il faut aller les provoquer sur le côté. Donc, non, 4-3-3 aussi.
Et je dirais même Gonçalo Ramos, même. Hein. Gonçalo Ramos qui peut redescendre, qui peut venir presser, qui peut remonter les ballons, où tu peux venir t'appuyer.
Ouais, puis comme ça, tu laisses
avec Dembélé. Ouais, exactement. Exactement. Et puis, on a vu que le côté gauche, Nuno Mbappé, ça fonctionne beaucoup mieux, même pour défendre. Tu couvres beaucoup mieux le terrain avec un Nuno plus haut. Donc, ouais, moi, je ne jouerai pas contre nature non plus, je suis d'accord. Et puis, autant laisser Dembélé dans les meilleures dispositions.
Pourquoi personne ne parle de Marquinhos en latéral droit, Soura, d'après toi?
Parce que ça fait des années qu'il n'a pas joué à ce poste-là. C'est pas son réel poste de prédilection. Je crois que la dernière fois qu'il a joué au poste de latéral droit, c'était en saison 2014-2015. Donc ça remonte énormément, ça fait 10 ans. À part pour dépanner, la dernière fois qu'on a eu ça, c'était Kimpembe qui avait joué latéral gauche. Ça n'était pas forcément très bien passé pour le français. Donc plutôt que de chercher de mettre tel joueur à droite ou tel joueur à gauche ou en numéro 6, le mieux, c'est de faire avec ce qu'on a. Malheureusement, on a un idiot qui a été suspendu. Il y a Mukele, mais bon, Luis Enrique ne fait pas confiance à Mukele. Donc malheureusement, ça sera plus Warren Zaïre-Emery parce que je ne pense pas forcément que Carlos Soler part en prétendant numéro 1 pour ce poste-là. Donc ça va être très, très important. Après, l'avantage, entre guillemets, qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas, le FC Barcelone n'a pas un ailier gauche monstrueux. Ce n'est pas Vinicius Junior en face. Ce n'est pas Kvaratskhelia. C'est soit Ferran Torres, mais je crois qu'il est un peu diminué. Et la dernière fois, c'était Rafinha qui avait joué à gauche. Donc voilà, donc c'était Rafinha qui avait joué à gauche. Bon, Rafinha, ce n'est pas forcément l'ailier qui va vraiment faire énormément mal à notre défense, même s'il y a la possibilité de faire de grosses différences. on reste quand même dans une situation où on aurait pu avoir pire.
Oui, et puis Ferran Torres, il faut rappeler que son beau-père, il s'appelle Luis Enrique. Donc, vas-y, Luis, mets la pression à ton beau-fils. Tu lui dis, si tu fais un bon match, je te fracasse. Il n'y a pas de problème. Vas-y, Basto, t'avais levé la main. J'aime bien.
Ouais, après, je comprends l'hypothèse de Marquinhos parce qu'elle m'a aussi trotté dans la tête quand j'ai vu qu'Hakimi était suspendu. C'est que tu peux imaginer l'asymétrie que tu avais en début de saison avec Lucas, qui était limite troisième d'essai, et Hakimi sur le terrain. Et là, qui change avec Nuno qui est sur le terrain et Marquis qui vient faire le troisième d'essai, ce qui permet en plus peut-être d'apporter plus de sécurité à Emery devant lui et de liberté à Dembélé. Donc ça peut s'imaginer. Maintenant, c'est vrai que ça a été peu travaillé, je crois. Marquinhos, il l'avait fait contre Lorient et Toulouse les deux premières journées quand il passe Hakimi à gauche en cours de jeu et il changeait la symétrie, mais bon, c'était sur 10-15 minutes. Donc bon, après, on a vu, il a bien lancé Beraldo dans le grand barrière gauche, même si ça s'est bien pas bien passé. Donc ouais, il est capable de le faire, Enrique. Maintenant, est-ce qu'il le fera ?
Moi, c'est une hypothèse que je valide totalement personnellement. Je pense que justement, dans ce système asymétrique qu'on a utilisé avec Hakimi très haut et Hernandez à gauche plus bas, je pense que ça peut être vraiment une possibilité de mettre Marquinhos en fait, c'est pas vraiment latéral droit, quoi, c'est central droit avec un Zaïre Emery qui peut venir aider aussi, même Vitinha s'il joue 6 devant la défense. Donc pour moi, c'est une possibilité, clairement. Et puis, face à Rafinha, Lewandowski, à Yamal, tu aurais quand même des joueurs assez rapides pour venir combler tout ça, que ce soit Nuno, que ce soit Hernandez, que ce soit Marquinhos. Donc pour moi, ce serait une possibilité. Après, il faut voir surtout physiquement comment il va, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas joué là. Et puis, il faut voir s'il retrouve toutes ses sensations, parce que ça va être un match important. Et Rafinha, il est quand même très, très remuant, donc vaut mieux être à 100% quand tu joues face à lui. C'est vrai que moi, ça me dérange pas forcément d'avoir Warren à droite, parce que comme l'a dit Soura, tu auras Rafinha qui n'est pas forcément le plus gros des clients. Mais surtout, ton milieu de terrain que tu as mis face à Nice, il peut être intéressant. Le Vitinha Ruizli, dans la sortie de balle, parce que tu as quand même des joueurs qui techniquement sont assez sûrs et ont une belle vision du jeu. Et je pense que justement, quand tu dois aller vite en transition, avec un Barça qui laisse des espaces, si tu peux avoir la qualité de passe d'un Vitinha, d'un Ruiz ou d'un Kanginli pour aller très vite et servir Mbappé, Dembélé ou Ramos ou Barcola, je pense que tu peux faire très très mal, parce que défensivement, le Barça est dans la couverture des espaces, c'est pas forcément l'assurance tout risque.
Après, je sais pas si vraiment Lee est vraiment le joueur qui serait intéressant pour ce genre de transition, parce qu'il a quand même pas mal d'errements, il est assez lent pour le coup, même techniquement, des fois il a quelques défauts, il prend son temps, il réfléchit un petit peu. Donc, il a un peu ce problème de jugeote à aller vraiment vite vers l'avant. Et en plus, il n'a pas ses automatismes au milieu de terrain, ça se ressent. Mais sur ce qu'avait dit Nix par rapport à Barcola qui devrait prendre la place de Ramos, moi, pas forcément d'accord par rapport à ça. Pour moi, Barcola, je pense que ça doit être une option parfaite en sortie de banc. Quelqu'un qui va apporter énormément et qui va faire beaucoup de dégâts sur les 30-20 dernières minutes du match pour vraiment pouvoir fatiguer la défense adverse. Quand on avait vu ça face au Bayern, où ça faisait rentrer le Roi Sané à la place d'un Kingsley Coman, par exemple, parce que je me souviens plus des changements, tout le monde était effrayé, où c'était dit, bon, Hakimi, on t'aime bien, mais là, tu vas encore devoir souffrir encore 15-20 minutes. Ou pareil, en 2018-2019, où est-ce qu'il y a Youri Berchiche qui va devoir se taper Gareth Bale, qui rentre pour les 30-20 dernières minutes. Ça, c'est ce genre de changement qui vont faire énormément mal à ta défense adverse et qui va toujours faire suffoquer ta défense et tes adversaires. Surtout qu'un Jules Koundé, on sait qu'en tant que latéral droit, c'est pas forcément son poste où il aime être placé.
Ah, mais après, c'est pas qu'une question de poste, c'est une question d'utilisation. Mais ça reste un autre problème. Justement, maintenant, concernant la défense, moi, j'allais juste proposer une option qui n'a été proposée par personne, ni dans le chat, ni par vous d'ailleurs. Et je trouve ça curieux que personne n'y ait pensé d'ailleurs, dans le sens où, depuis le début de la saison, comme vous avez vu, vous parlez de défense asymétrique et vous avez raison. Moi, je me dirais justement, pourquoi pas, et je dis bien pourquoi pas, hein, je ne te dis pas que c'est exactement ce qu'il faut faire, mais un Lucas Hernandez à gauche, accompagné de Beraldo et Marquinhos dans l'axe, et Nuno Mendes à droite qui occupe la fonction de Hakimi. Ce qui te permet justement de garder ce que tu as fait depuis le début de saison. Ça te permet ça te permet d'avoir un latéral très défensif sur Lamine Yamal, qui est justement l'élément le plus dangereux du Barça sur l'aile. Parce que je pense qu'il vaut mieux avoir Lucas Hernandez et le mec qui défend du côté de Lamine Yamal que de Rafinha, mais après chacun son champ. Si vous pensez que Rafinha c'est celui qu'il faut prendre et laisser Lamine Yamal seul, vous avez le droit de le penser aussi. Et ça permet justement de garder cette option avec le duo Hakimi-Dembélé. Là tu remplacerais par Nuno Dembélé. Je pense que t'es pas trop trop perdant au change non plus, mais voilà, je pense que c'est un peu risqué aussi, tu vois. Je te dis pas en mode c'est l'option la plus sécure, et je pense qu'il faudrait que ça soit plus travaillé quand même pour être mis en place si tu veux le faire.
Bah surtout qu'il est tellement à l'aise dans ses démarrages, c'est vraiment son pied gauche, les passes qui peuvent être recentrées, le jeu intérieur de Nuno, tu le mets à droite, tu perds tout ça, je pense.
Non, au contraire, tu gagnes un gars qui est faux pied, qui peut te permettre de faire des centres rentrants pour tes neufs.
Ouais, mais je sais pas s'il serait bien placé, bien à l'aise.
Ouais, mais là, tu parles de Nuno Mendes. Après, si tu penses qu'on parle de Michel Bakker, grand bien te fasse, tu vois. Mais là, on parle quand même d'un joueur qui...
On parle du Barça, en fait, on parle pas de Arles Avignon non plus, quoi.
Bien sûr, il serait du côté. Ouais, voilà, mais il serait du bon côté. Il serait du côté avec justement Rafinha et Joao Cancelo. Il serait pas du côté où il y a Yamin Lamal et Koundé. C'est dans ce sens-là aussi.
Je pense que par rapport aux ailiers droits, je pense que là, pour le coup, on est un petit peu habitué à pouvoir museler de très bons ailiers droits capables de créer du danger. Parce qu'on l'a fait avec Kubo, on l'a réussi à un peu le museler. Il n'a pas forcément existé. Eden Zegrova, c'était pareil. Moi, je pense que le match de Lille où on a vu Zegrova vraiment être en jambes et être en forme face à cette équipe-là, il y a eu un déclic pour moi de Luis Enrique qui s'est dit maintenant. Les idées qui vont vraiment être très dangereux, il y aura soit une prise à deux, soit une prise à trois sur certains joueurs. Alors, et pour moi, je pense que j'aimerais peut-être voir Lucas Hernandez soit latéral gauche, soit défenseur central gauche pour le coup, parce que je pense que Lamine Yamal doit vraiment être bloqué et il ne doit pas forcément avoir d'espace pour pouvoir réellement s'exprimer à un bon niveau. Et un Nuno Mendes à droite, peut-être que cette fois-ci, ce serait intéressant, si Ramos est titulaire, d'avoir un Dembélé qui va plus coller la ligne et cette fois-ci avoir un Nuno Mendes qui lui va repiquer dans l'axe pour être sur son pied gauche. Et c'est un joueur aussi qui, des fois, on ne l'a pas forcément vu cette saison, mais la saison dernière le faisait, il avait cette aptitude à pouvoir tenter des tirs et essayer de tenter de prendre sa chance. Donc là, vu qu'il repiquera dans son pied gauche, soit il tentera un bon petit centre, soit une frappe. Donc de toute façon, toute option qu'on a parlé, que ce soit Marquinhos à droite, que ce soit Nuno Mendes ou un Warren Zaïre Emery, c'est des options où on n'a pas forcément le choix, où c'est des options, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller. Donc, qui ne tente rien à rien. De toute façon, on n'a pas forcément la flexibilité requise vu que Mukele n'est pas dans les plans.
Après, prise à deux Zegrova, ça a aussi profité à Thiago Santos qui nous a quand même bien ennuyé dans le match et qui a fait l'amour à Beraldo plusieurs fois dans ce match.
Mais après,
Beraldo était latéral gauche.
Ah ouais, bah ça, on est d'accord, oui.
Si déjà on a des soucis à droite pour combler à droite, qu'on commence à faire jouer Dembélé contre nature et Nuno Mendes contre nature alors qu'il n'a jamais joué à droite, si je ne me trompe pas, oui, il a des qualités qui font qu'il peut s'adapter au poste. Mais de là à vouloir faire absolument un plan anti-Lamine Yamal, je trouve que Nuno Mendes face à Kubo, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Il y a eu 20 minutes assez compliquées, mais parce qu'il revenait de blessure et forcément, il doit reprendre le rythme. Mais globalement, sur l'ensemble du match, Kubo, on ne l'a pas vu. Donc, ce côté-là avec Nuno Mendes, aidé aussi par Beraldo et Hernandez, ça avait déjà bien fonctionné et Kubo n'avait pas existé. Donc, je trouve que ce serait trop se prendre la tête pour pas grand-chose. Je pense que Nuno peut faire le taf à gauche. Et si on fait jouer tout le monde contre nature, je pense que ça peut nous causer notre perte. Donc, personnellement, je mettrais Nuno Mendes avec une charnière Hernandez-Beraldo ou Hernandez-Marquinhos s'il revient. Et à droite, après, tu vois qui tu mets. Tu as du choix. Tu peux faire jouer Mukele. Bon, on sait qu'il ne le fera pas jouer, mais tu as du Solaire, tu as du Warren, à voir si tu remets Warren. Mais je pense que trop se prendre la tête pour absolument vouloir mettre quelqu'un d'autre à droite, ça peut causer notre perte, je pense.
Bah pour le coup, si jamais c'est Nuno Mendes qui est titulaire et qu'on a la charnière qui marche bien, Hernandez-Beraldo, bah moi, je tenterais le coup Marquinhos parce que là, tu auras un profil bien plus défensif qui ne va pas forcément monter à chaque fois lorsqu'il y aura des offensives parisiennes, sauf quand il y a des corners, parce que ça reste quand même une solution intéressante de la tête. Et ça aussi, ça peut être un moyen important pour nous d'essayer de marquer des buts de la tête. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous manque depuis pas mal de saisons au Paris Saint-Germain. Donc, un Marquinhos en tant que latéral droit, après, il faudra que ça soit testé ce dimanche face à Montpellier. De toute façon, le match face à dimanche sera aussi un baromètre de quelle sera la
composition. Il y aura Rennes aussi.
Oui, il y a Rennes en Coupe de France aussi. Donc, on aura pas mal de baromètres pour savoir qui sera latéral droit et quelle sera la défense mise en place. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra surveiller.
Alors maintenant, justement, je vous propose qu'on aborde le prochain sujet de ce live pour avancer un petit peu quand même, pour ne pas trop s'éterniser. On est déjà une demi-heure quand même, et finalement, on n'a pas bouclé tant de sujets que ça. Donc justement, la prochaine question, et cette fois, j'ai encore inversé l'ordre des caméras, histoire que tout le monde ait un temps de parole équivalent dans l'ordre. Justement, Soura, la prochaine question, c'était, est-ce que c'est un avantage pour Lucho d'avoir tous ces clubs possiblement espagnols en Ligue des Champions jusqu'à la fin? Parce qu'on affronte le FC Barcelone. Si on se qualifie, je dis bien si, hein, je dis pas en mode c'est déjà fait. Si on est qualifié on peut probablement affronter l'Atlético Madrid. Et si encore on se qualifie, il y a une probabilité d'affronter le Real Madrid en finale. Donc finalement, un petit parcours 100% espagnol à l'image de ce qu'avait vécu le Real Madrid en 2014 avec Schalke, le BVB et le Bayern. Est-ce que finalement, ce ne serait pas un peu un avantage pour Lucho qui, bah, lui, pour le coup, vient de Liga?
Bah, je ne sais pas forcément si ce sera réellement un avantage pour Lucho, parce que bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'il n'a pas entraîné en Liga. Et avec tout ce qui s'est passé derrière, il y a quand même pas mal de changements, notamment dans la tactique et dans les joueurs qui sont tout simplement arrivés dans le club. La seule équipe où je me dis que Lucho, entre guillemets, pourrait avoir un avantage, parce qu'il les a déjà joués, c'est l'Atlético de Madrid. Parce que là, même si tu as des nouveaux joueurs qui sont arrivés, tu gardes quand même une même base et une même colonne vertébrale. Et notamment dans la philosophie de jeu, il n'y a pas forcément eu de changement notable. Néanmoins, et là où je me dis que Luis Enrique a quand même cet avantage face à Barcelone, c'est qu'il va affronter, entre guillemets, un de ses disciples, c'est Xavi Hernandez. Et je pense qu'il peut avoir cet aspect psychologique qui va lui primer ascendant, pour lui. Et non, ascendant,
cet
ascendant, voilà,
exactement.
Cet ascendant psychologique qui va primer pour Luis Enrique et se dire, bon, bah, je connais un petit peu Luis Enrique, je sais qu'est-ce qu'il propose en termes de jeu. Et pour le coup, quand tu parlais de qui ne va pas forcément apprécier ne pas avoir la possession de balle, bah Luis Enrique, pour le coup, sur certains matchs, il n'avait pas forcément la possession de balle. Alors même si je pense que ça l'irritait énormément, on a quand même su gérer sur certains matchs le fait de ne pas avoir le ballon pendant 10-15 minutes. Et ça, c'est un avantage pour nous, puisque se projeter, aller très vite vers l'avant, avoir des passes où tu peux aller avec de longs ballons, ça, c'est un avantage pour nous. Donc je pense que Luis Enrique va aussi avoir la possibilité de pouvoir s'adapter. Je ne dirais pas qu'il est claqué au sol, Xavi, non plus, mais je pense qu'il y a quand même cet ascendant psychologique pour Luis Enrique qui va primer, selon lui, à l'instar de Xavi Hernandez, malheureusement, parce que là, il va devoir affronter quelqu'un qu'il connaît très bien. Et surtout, je ne sais pas si lui, il est réellement prêt de se dire que je vais affronter Luis Enrique aussi. Donc, on peut aussi avoir cet avantage-là en se disant « je vais affronter quelqu'un qui m'a entraîné ».
Alors, j'aurais plutôt dit « disciple de Pep hein, » pour te répondre. Oui. Je suis d'accord avec le commentaire pour le coup. Luis Enrique lui-même étant un disciple de Pep, hein, c'est pas l'inverse, c'est pas Luis Enrique.
Oui, voilà, non, mais vous avez compris.
Mais oui, je vois ce que vous voulez dire.
Pep, Luis Enrique était juste dans la hiérarchie, ouais, avec non, l'âge, etc.
C'était un peu pour répondre au chat, parce que bah, oui, c'est au fond, on a compris ce que voulait dire Soura, hein, on sait très bien. Mais il faut rappeler que Luis Enrique a quand même été le coach de Xavi une saison, hein, pas 30 saisons, hein, il a quand même été justement lors de sa première saison, donc c'est quand même.
Et ils ont gagné la Ligue des Champions ensemble.
Voilà, mais ouais, bah, là du coup ça pourra pas être possible. Et justement, bah, Rekoba, j'allais te poser la question à toi, justement, est-ce que c'est pas un avantage pour Luis Enrique bah, de retrouver possiblement toutes les équipes qu'il avait affrontées en championnat précédemment?
Si, pour moi c'est un avantage indéniable d'avoir un coach espagnol qui connaît très très bien toutes ces équipes-là. Face à la Sociedad, ça s'est bien passé, t'as une équipe en face qui était joueuse, qui aime avoir le ballon, qui sait l'utiliser, et au final on a un entraîneur qui a super bien répondu. Qui a mis un plan justement pour empêcher la Sociedad de développer au mieux son jeu, et ça a très très bien fonctionné. Donc pour moi, c'est un avantage indéniable. En plus de ça, le Barça, bon, bah, forcément, il connaît la maison. Comme l'a dit Soura, il y a beaucoup de préceptes de jeu en commun avec Xavi. Donc ouais, pour moi, c'est un avantage. C'est quelqu'un qui a réussi au Barça, qui connaît pas mal de joueurs aussi, puisque même à l'époque Barça, tu as des joueurs qui jouaient déjà.
Hein, il a été sélectionneur de l'Espagne aussi, tu peux le dire.
Ouais, sélectionneur de l'Espagne. Donc non, pour moi, c'est clairement un avantage. Et puis Luis Enrique reste quand même un très bon tacticien. Jusqu'ici, il nous l'a montré, on a une équipe en progression. Tactiquement, il y a énormément de matchs où il a pris le dessus sur le coach adverse. Alors oui, il y en a beaucoup qui se souviennent des ratés, notamment celui face à Newcastle. Mais comme on dit, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Maintenant, pour moi, ça reste globalement un avantage d'avoir Luis Enrique. Et je suis très content et j'ai hâte de voir justement la réponse qu'il va donner sur cette double confrontation et possiblement peut-être même après face à l'Atlético.
Surtout, excuse-moi de te couper, surtout par rapport à. Il faut se souvenir aussi des paroles qu'a eu Imamoglu Alguacil à l'encontre de Luis Enrique, où il a reconnu avoir été tout simplement battu tactiquement par Luis Enrique et à quel point il a réussi à très très bien gérer ce match retour, même s'il y a eu quelques petits couacs en fin de match, mais bon, il était déjà qualifié. Il y avait
oui, mais Soura, maintenant qu'on a battu le Real Sociedad, c'est devenu un club faible, ça ne sert plus à rien.
Ouais, parce que vous êtes sûr, les gars, parce que je ne sais pas, les Riolo, Roten, Emmanuel Petit, tout ça, ils disaient que Luis Enrique était naze et que finalement. Vous êtes sûr qu'Emmanuel Alguacil, il a dit ça?
Non, Riolo n'a jamais dit ça sur Enrique, Enrico.
Non,
il a attaqué l'homme, il n'a pas trop attaqué le coach, il était même pour ça.
Ouais. Oui, mais tu connais mais ça, les Roten, etc. Les Stéphane qui donnent des conseils à Luis Enrique, on les a entendus. Hein. Alors que oui, Manuel Alguacil a bien. a bien précisé que Luis Enrique, tactiquement, avait été très fort. Ça, il faut le dire.
Et maintenant, bah justement, bah moi, j'allais te poser la question à toi, Basto. On sait que, Luis Enrique est ton chouchou. On sait que tu comptes appeler ton fils Luis en l'honneur de Luis Enrique. Donc, j'allais te poser la question, Basto, justement. Est-ce que pour toi, ce n'est pas justement un avantage pour Luis Enrique de jouer que des clubs espagnols d'ici la fin de
l'année ? Ce sera Luis aussi. Non, mais je ne sais pas si c'est un avantage. Alors, oui, c'était il y a longtemps qu'il était au Barça, mais il a été sélectionneur de l'Espagne. Donc, il observait quand même la Liga en priorité. Pour faire sa sélection, je suppose, vu comment c'est un amoureux en plus de la vidéo, de regarder beaucoup de matchs, à mon avis, il s'est amplifié beaucoup de matchs de Liga, donc il connaît bien ce championnat. Il connaît évidemment le Barça, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Barça, qui tout double, c'est que le Barça le connaît aussi, donc ça, ce sera un duel, je ne sais pas sur qui il penche. Maintenant, justement, alors Sociedad, oui, il a dominé tactiquement à partir de la deuxième mi-temps du match aller avec une réponse qui était de mettre Vitinha en 6. Mais de base, il fait les mauvais choix la première mi-temps. Alors, s'il connaissait si bien cette équipe de la Sociedad, pourquoi il met 45 minutes à réagir et à comprendre que cette équipe est très scolaire et qu'il faut la déstabiliser? Alors derrière, il fait tout bien, mais c'était sur réaction. Donc, le Barça n'aura peut-être pas le temps d'être en réaction. Donc, c'est le petit point négatif que je mets là-dedans. C'est qu'a priori, c'est un avantage, il connaît bien toutes ses équipes espagnoles. Mais contre la Sociedad, il a quand même fait le mauvais choix au départ.
Après, mieux vaut réaction, surtout quand tu as 4 minutes.
Voilà.
Bien sûr.
Justement, j'allais poser la question, Basto, quand tu vois le problème qu'on a eu précédemment ces dernières années en Ligue des Champions, il venait de là le problème. Je veux dire, on avait un coach qui avait le bon plan de jeu de base, hein, on était fort pour battre les équipes au match aller, mais après, on n'avait plus de plan. Une fois que le plan avait marché au match retour, il y a eu la remontada à Barcelone, il y a eu l'échec à Manchester, il venait de là le problème. Avant, même avec Galtier et Pochettino, tu vois, ce genre de choses qui nous il y a une erreur tactique de base, il n'aurait pas été capable de la corriger, tu vois. Donc là, c'est quand même un avantage d'avoir un coach comme Luis Enrique qui, bah, écoute, il peut faire le mauvais choix de base, mais se rattraper et faire la bonne option derrière. Tu vois, ça me rappelle un peu le match du Bayer Leverkusen contre Leipzig, si tu l'as vu, où tu vois Leipzig qui domine totalement la première mi-temps et Xabi Alonso, il prend un bouillon comme pas permis. J'ai pas vu les fans de Xabi Alonso en parler d'ailleurs de ça. Bizarrement, ils n'avaient pas de Wi-Fi ce jour-là. Mais par contre, Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il a fait à la mi-temps? Il a fait ça. Il a eu une réaction. Et du fait d'avoir la réaction, il a eu les bons choix tactiques et la bonne réponse adaptée, ce qui lui a permis justement, tu vois, de poutrer Leipzig en deuxième période. Moi, je préfère avoir un coach comme ça avec Luis Enrique plutôt qu'avoir un coach comme Tourelle qui avait le bon choix de base, mais que une fois que son bon choix, on avait deviné comment il fonctionnait, bah comme au match retour à Manchester United, bah là tu tombes sur un os et finalement tu te fais avoir.
Après, contre Newcastle, il fait les mauvais choix et il fait la mauvaise réaction. Donc, c'est pas après où on a eu des problèmes. C'est pas comme encore une fois, c'est on a toujours éliminé les équipes comme la Sociedad sous QSI. Contre qui on perd, c'est des noms,
Valence, ouais.
Ouais, on les a toujours battus, les Leverkusen, les Valence, les Dortmund, même Atalanta, même si c'est à la 92e, ces clubs-là, on les a toujours battus en soi. Donc c'est pour ça que j'attends des noms. Barça, c'est un nom. Atlético Madrid, c'est un nom. Ça va être autre chose encore. Mais pas forcément.
Je vous propose qu'on revienne un peu plus sur le sujet pour accélérer le live non plus et pas faire trop d'hors-piste, même si on aime bien les sports de ski et de snowboard ici. Justement, la prochaine question, c'était est-ce qu'on continue en 4-4 de losange ou dans le bon vieux 4-3-3 des familles? Et justement, c'est Rico qui... C'est Rico qui va répondre en premier pour celle-là.
On l'a fait déjà, tonton.
Ouais, t'as raison. non, mais c'est vrai. Autant pour moi.
Il y en a qui veulent parler du calendrier. On peut parler du calendrier rapidement?
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, après, je ne l'ai pas là de tête. Je peux toujours essayer
J'ai regardé.
Tu l'as?
En gros, il y a 2 matchs pour le Barça, 4 matchs pour le PSG. Alors, ça peut être effectivement un avantage pour le Barça. Mais après, tu sais, quand tu joues pas pendant... Je crois qu'il ne joue pas pendant 10 jours avant de nous jouer. C'est ça. Tu peux être en manque de rythme aussi. Bon, pour les organismes, c'est toujours mieux, mais c'est vrai que tu peux être aussi en manque de rythme. Donc, c'est pas forcément un avantage. Et puis surtout, le Paris Saint-Germain, avant le Barça, va jouer Clermont en championnat. Donc, tu peux faire un gros match face à Rennes et mettre ton équipe type, puis faire tourner face à Clermont, sachant que tu as une grosse avance. Et derrière,
c'est Lorient pour les deux matchs. Et c'est Lorient entre les deux matchs contre le Barça, donc c'est tranquille. Enfin, tu joues Lorient et Clermont.
Ah oui,
Clermont contre Barça et Lorient avant le retour.
Bon, donc tu vois, ça va. Et ça, c'est bien d'avoir du coup cette avance en championnat. Et il va y avoir 2 gros matchs pour se jauger. Il va y avoir l'OM en championnat au Vélodrome.
Vaincu à domicile.
C'est bien niveau. Voilà, donc grosse ambiance à l'extérieur, invaincu à domicile. Donc très, très bon test pour le PSG. Il va y avoir Rennes à domicile. D'ailleurs, on va recevoir 3 fois d'affilée avant de. Enfin, 2 fois d'affilée avant de recevoir le Barça. Donc très bien, on reste au parc, pas de déplacement ou quoi. Et puis, donc 2 très bons tests. Et puis le Barça, le 17, donc ça doit être demain. Ouais, demain, joue à l'Atlético. Donc ça peut être déjà sympa à regarder, voir ce que peut donner le Barça face à une grosse équipe.
Ben, Soura.
Bah, le calendrier, ouais, ça reste un beau calendrier pour le coup. On est plutôt bien loti, je dirais. Si on enlève le match face à Marseille et face à Rennes, c'est des matchs où on va pouvoir bien gérer face à Lorient Clermont, surtout qu'ils sont dans des formes assez médiocres ces derniers temps. Eux, c'est le maintien à tout prix. Donc là aussi, je trouve que là, c'est vraiment le genre de match où il va falloir faire tourner. Parce que c'est pas des. Ils vont pas vouloir se découvrir. Il y aura peut-être des matchs où ça sera un petit peu dur physiquement parce qu'ils voudront à tout prix ne pas prendre la défaite. Et surtout, ce qui est plutôt intéressant pour Paris Saint-Germain, c'est que s'il y a deux matchs à domicile, n'hésitez pas à venir devant la tribune Auteuil. On sera là pour faire le fameux micro-trottoir du parc. Donc, en plus, ça sera avril. Donc, n'hésitez pas à nous dire qui sera le joueur du mois des supporters. C'est un petit peu important. Voilà, est-ce que c'est Barcola, est-ce que c'est Ramos ou est-ce que c'est Dembélé? On profite.
En parlant de choses importantes, Soura, je rappelle, on est déjà à 40 minutes de live. Alors, je voulais remercier déjà les 423 personnes qui sont live avec nous. C'est toujours un plaisir de voir autant de personnes qui suivent nos lives.
Faut liker.
Voilà, le ratio like.
Sinon, on vous punit.
Il n'est pas très très fou, c'est ça. Moi, j'ai pas envie de vous punir, j'ai pas envie de mettre une image qui va d'ailleurs vous rappeler la confrontation PSG-Barcelone en Ligue des Champions. Moi, je pense, avant de faire des menaces, qu'il serait bien que vous soyez un maximum à liker afin d'aider au référencement et au développement de ce live et surtout à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, je ne dis pas non plus qu'on doit avoir 423 likes pour 423 personnes TH, mais en étant un minimum raisonnable, on est 430. Si on peut avoir au moins la moitié, ce serait quand même pas mal pour nous aider à nous développer. Oui, alors justement, pour te répondre, Soura fait des micro-trottoirs en ce moment. Et justement, il faut suivre un peu. C'est surtout quand il y a match. Quand il y a un match, essaye de te connecter un peu après. Le temps qu'on fasse les montages et tout, ça sort un jour ou deux après. En général, on parle de tout ça, justement.
TikTok, vers quelle tribune ? Instagram, YouTube. Vers quelle tribune ?
Et même homme de l'ombre, Jimmy Cox, c'est à la ref. Alors justement, maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet suivant, histoire de ne pas trop s'éterniser sur certains sujets, surtout ceux-là, comme celui du calendrier du Barça, qui ne sont pas des sujets sur lesquels il mérite justement de s'épancher pendant 30 minutes. J'allais vous poser la question suivante, sujet suivant, et on a quand même un petit peu abordé, donc je ne pense pas qu'on va en parler pendant 30 ans. Et c'est marrant, justement, Angry Bird, j'ai l'impression que monsieur nous a un petit peu trollé et piraté, parce que justement, j'allais aborder le sujet. J'avais posé la question, le CM du Barça qui commence à attaquer le PSG, est-ce que vous pensez que le traitement médiatique va affecter l'effectif ou non ? Et je vais commencer par Bastos cette fois.
Non, je pense pas. Je pense les joueurs sont assez calmes. C'est plus non plus le même groupe qui a... que lors de la remontada où la pression avait été mise. Oui, bon, c'est Marquinhos, on sait, mais bon, il y a une cellule psychologique mise en place. Il y a un vestiaire qui est plus. Enfin, ils ont connu ces choses. Je pense qu'ils sont assez grands pour pas écouter ce qui se dit ailleurs. Après, c'est vrai que le 6-1, il était né aussi d'une fait que la presse française s'était mise à mettre la culture de la peur à ce moment-là. Mais je pense qu'on est un peu sorti de ce cycle. Même dans les médias français, même si ils ne sont pas toujours très justes, mais ils sont pas dans la culture de la peur depuis quelques années, ils sont plutôt dans l'encouragement, je trouve. Après, chacun fera son avis là-dessus, mais je trouve que ça a changé depuis l'époque où c'était Tarago et Armand, notamment, qui suivaient le PSG. Tarago, lui, il avait une vraie haine en lui, qui n'existe pas là. De quoi ?
On se demande pourquoi tu as la haine du PSG. Je crois que c'est lié à un attaquant antillais, mais je ne suis pas très très sûr. Tu
vois. une petite gifle perdue. non, donc je pense qu'Enrique est assez grand pour. Si jamais des joueurs commencent à avoir peur ou à lire, Enrique est assez grand pour le fait que ça ne joue pas. Et je pense que ça ne jouera absolument pas. Qu'on les laisse faire. Effectivement, comme Rico l'a dit tout à l'heure, qu'on ne rentre pas dans ce jeu-là. Et puis c'est un épiphénomène.
Alors, Soura, justement, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Est-ce que, justement, tu penses que l'effectif serait affecté par les déclarations de FC Barcelone, la presse, éventuellement la pression qui pourrait être mise autour de ce match ?
Non, ça, c'est des enfantillages. De toute façon, le tweet du CM du FC Barcelone qui, juste après, met le tweet, met la remontada. Bon, OK, c'est bien mignon, c'était en 2017, maintenant, il faut grandir, garçon.
Dans les signes.
Dans les signés, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Il y a surtout eu un 4 ans au Camp Nou, mais ça, je pense que le CM a dû oublier dans le brouillon. Ça, c'est sûr qu'il a dû oublier.
Ouais, grave.
Je pense que là, ça lui est passé au-dessus de la tête. Et par rapport aux médias, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont vouloir dire et qu'est-ce qu'ils vont vouloir écrire ? Tout ce qu'ils attendent, c'est que le Paris Saint-Germain se fasse éliminer pour pouvoir dire que, regardez, on avait raison, Luis Enrique n'est pas forcément l'entraîneur qu'il faut au Paris Saint-Germain. Donc, pour le coup, je pense que ce n'est pas forcément très intéressant pour le club. La dernière fois que ça s'est passé comme ça, c'était Dortmund, où ils avaient vraiment voulu prendre la grosse tête. Alors, Dortmund qui prend la grosse tête, j'aimerais bien qu'on leur rappelle leur passif, un peu comme Arsenal, les chokers d'Europe. Donc, pareil, ils avaient fait des tweets. Ils ont vu le retour de flamme qui est tombé sur eux, c'est-à-dire une élimination.
Et tu as voilà, oublié qu'à l'époque, ils avaient encore Haaland, Sancho et Hakimi exactement. Dans l'effectif. Enfin, c'est loin d'être Haaland, le cas aujourd'hui. Sancho.
Ah oui, c'est malheureusement, c'est dur pour eux. Ils ont perdu pas mal de joueurs. Donc, non, pour le coup, je pense que les joueurs sont concentrés sur leur objectif d'aller en demi-finale. C'est le plus important pour eux. Et après, voilà, c'est que le meilleur gagne de toute façon, c'est comme ça.
Et j'ai fait tout le monde sur le sujet. Rekoba aussi, t'as parlé ou pas encore?
Non, pas encore. Vas-y. Bah moi, justement, pour moi, en fait, quand t'es confiant, quand t'es sûr de ta force, tu parles pas. Pour moi, le Barça n'est vraiment pas content, je pense, du tirage, même si je pense qu'évidemment, ils croient en leur chance. Mais quand tu commences à parler, quand tu commences à essayer de trouver des intimidations, d'essayer de jouer, de rentrer dans la tête de l'autre, etc., c'est que t'es pas forcément sûr de ta force. Quelqu'un qui est sûr de sa force, il parle pas. Il parle pas, il agit. Et aujourd'hui, je pense que le Paris Saint-Germain a la bonne stratégie. Ne pas parler, respecter l'adversaire. Si, parce qu'on ne répond pas, on n'est pas dans la provoque.
Ah, moi, je
on
parle sait pas qu'il y a eu cette... Ah, ok. Je te développerai après.
On n'est pas dans la provoque. Pour moi, on doit se concentrer sur le championnat, la Coupe de France, le Classico. Et on abordera le Barça au moment venu. Pas parler, se concentrer sur le match et faire le match nécessaire. Je pense que le groupe a confiance en Luis Enrique. Luis Enrique a confiance au groupe. Il y a une force qui se dégage, une force tranquille. Il n'y a rien à manger au niveau de la presse. Je pense que collectivement, on est meilleur. Je pense qu'individuellement aussi, les joueurs sont meilleurs. Je pense qu'on se sent fort à notre juste valeur et qu'on se sent capable de sortir le Barça. Et on n'a pas besoin de rentrer dans un jeu de répondre aux médias ou de répondre au Barça. On répondra sur le terrain et voilà, ce sera la meilleure chose et la meilleure réponse possible.
Moi, j'allais dire que je pense que c'est dans une logique un peu, on va dire, de sport un peu récente et ça ne s'apparente pas qu'au football. Je m'explique. Quand tu vois l'UFC en ce moment, il y a vachement cette mode de vouloir mettre le pressing, mettre la pression, faire une communication en trash talk, histoire de mettre la pression sur l'adversaire et lui rappeler qui est qui. Moi, j'allais te dire, c'est pas forcément une méthode de rageux parce que je te renvoie à Thomas Müller qui adore chaque année dire « le Barça va le payer ». Alors, tu vois, et lui, quand il le fait, je peux te garantir qu'il met la pression, Thomas Müller. Et lui, tu vois, il le fait… Mais tu vois, il n'est pas en mode méchant. Il aime bien, tu sais, sourire un petit peu, faire croire qu'il troll un peu. Mais Thomas Müller le fait, et lui, il le fait très, très bien. Donc, j'ai un peu l'impression.
Il a envoyé un petit taquet à Kaya Vertz en plus.
Voilà, tu vois. Donc, moi, j'ai un peu l'impression que le FC Barcelone essaye de imiter la recette de Thomas Müller. Malheureusement, le CM du Barça n'est pas aussi effrayant que Thomas Müller. Hein. Je suis obligé de lui dire quand même un petit peu. Mais pour moi, c'est normal. Ça a toujours fait partie du foot et même des sports en général. Il y a cette culture de un peu vouloir mettre la pression sur l'autre. Pour bah, justement prendre un ascendant psychologique, comme tu voulais le dire tout à l'heure, Soura, avant la rencontre. En revanche, est-ce que le PSG est armé pour résister à cette pression? Je pense que plus qu'avant. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu marcher avec Pochettino et Galtier en tant que coach, que justement, lui, il n'aurait pas su rassurer son effectif et faire ce genre de choses. En revanche, je pense qu'un Luis Enrique, à l'inverse, lui, bah, il est totalement là-dedans. Il est dans la rivalité, il est dans le trash talk, dans les médias. On parle quand même d'un mec qui a eu le courage de quitter le Real Madrid en tant que joueur pour aller signer au FC Barcelone. Donc, je te laisse imaginer, quand tu connais la presse espagnole en plus, le genre de truc qu'il a dû manger, lui. En soi, je pense que c'est plus rassurant d'avoir un mec comme Luis Enrique comme coach pour pouvoir gérer ça. Et je pense qu'il sera même capable de titiller l'ego de certains pour les mettre en forme le bonjour. Je pense notamment à un Kylian Mbappé qui est très facilement provocable et qui sait répondre à ça. Je pense que Luis Enrique sera appuyé sur les bonnes choses justement avant ce match pour mettre en confiance l'effectif. Pour te répondre, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu marcher plus tôt, mais ça marchera moins avant. Exactement.
Pour moi, je finirai là-dessus parce que je suis totalement d'accord avec ça. En fait, pour moi, leur taf, c'est d'avoir des likes, c'est de générer de l'interaction et donner du divertissement. Et c'est ce qu'ils ont fait et qu'ils réussissent. Mais de là à rentrer dans la tête mentalement des joueurs, on en est loin.
Et pour répondre à Warren Congo Emery, par contre, c'est un piège. Il n'est pas qu'atteint dans Luis Enrique. Hein. Il vient des Asturies. C'est un mec des Asturies qui est ensuite allé au Real Madrid et ensuite à Barcelone. Il est catalan d'adoption, si tu veux, mais il n'est certainement pas catalan. Et si tu lui dis. Toujours pas. Mais vas-y, tu disais, Rico, tu voulais rajouter quelque chose.
Non, bah, je suis d'accord aussi avec cette phrase-là. C'est vrai qu'il le dit, Luis Enrique aime la pression. Il aime ce genre de match, il aime ce genre de rendez-vous et il répondra présent.
C'est ça. Et moi, pour aller dans le sens de Laurent et à l'inverse de RMC, avec ce qu'il a vécu dans sa vie, on parle d'un mec qui est très fort mentalement. Et je ne développerai pas plus parce que je n'ai pas envie qu'on imagine que je manque de respect à son coach. Et surtout avec ce qu'il a vécu dans sa vie, je ne le souhaite à personne, justement. Mais voilà, moi, je pense que c'est plutôt des épreuves qui l'ont forgé et il a vraiment un très, très fort mental. Je vous rappelle d'ailleurs que quand il a arrêté sa carrière de joueur, le mec ne s'est pas dit « j'ai dans un transat et profité de mes millions ». Le mec, il a commencé à prendre le vélo, la course et à faire vraiment C'est un gars qui a un mental de fou furieux pour le coup, donc j'espère en tout cas qu'il sera l'insuffler pardon, dans ce groupe plutôt que l'instaurer.
Ouais, et puis ça joue sur ton groupe, hein, d'avoir un entraîneur qui a confiance en lui, qui se sent fort, ça joue sur le groupe, les joueurs se sentent plus forts aussi derrière et se sentent plus forts pour aborder justement ce genre de tournant, de match à pression, donc c'est très très bien d'avoir.
Il en a quand même perdu des moches, hein, des matchs à pression, Enrique,
bien sûr.
Remettre l'église au centre du village, parce que là, ce que je lis dans le chat, et là on a l'impression qu'Enrique c'est le mec qui a fait que des exploits en match élimination directe. Il a pris des branlées en Ligue des Champions et il s'est fait sortir par le Maroc et la Russie avec l'Espagne.
Le PSG déjà 4-0, la Juve aussi 3-0 si je ne me trompe pas. Donc bien sûr qu'il y en a eu, bien sûr.
Après leur remontada, ouais.
D'ailleurs, Basto, c'est marrant, mais quand on évoque Espagne-Maroc, avant, tu aimais bien dire que finalement, il y avait quand même eu pas mal de manque de finition de l'équipe d'Espagne pendant le match contre le Maroc. Et à un moment, Luis Enrique, tu ne peux pas le mettre neuf à la place de ses joueurs.
Finition, ils n'avaient pas d'occasion
dans le match. Ils la passe et à la 10. Demi d'euro. La demi d'euro
ouais.
aussi.
Avec Olmo en
fond. Après, ils égalisent sur la fin. Ils ont les occasions. Ça, c'est sur la demi d'euro. Mais.
Non, voilà. Après, il faut rester. Je pense que tu vois, il faut rester à sa place. Tu vois, Luis Enrique, c'est pas Pep Guardiola et c'est une réalité.
Il est éliminé par la Russie, PNL.
En revanche, ce n'est pas Christophe Galtier non plus.
Il est éliminé par la Russie, non, Enrique ?
En 2018, ouais.
2018, ouais. Ouais.
D'ailleurs, je t'invite à voir ce qui s'est passé pour certains joueurs russes et certains contrôles antidopage, mais ouais. Ça, c'est une autre histoire. Justement, ouais. J'allais maintenant, parce qu'au final, j'allais aborder les derniers sujets, mais je me rends compte qu'en fait, les derniers sujets, on les a déjà abordés sans que ce soit des vraies questions, dans le sens où on en a parlé finalement tout au long du live. Mais vu qu'on a parlé de tous ces sujets, je vous propose que je revienne sur les commentaires. Gonzalo Ramos ? Non. Ah si, excuse-moi. Effectivement, Sora, c'est bien le dernier sujet. Et justement, le dernier sujet. Excuse-moi, c'est en train de bugger.
Il a bien révisé ce soir.
Ouais, il a bien révisé le bon élève du mois. Qui doit jouer en pointe justement dans ce match ? Ramos, Mbappé ou pourquoi pas les deux justement ? Et j'ai laissé Basto commencer cette fois pour répondre à cette question.
Qui est, pardon ? Je n'ai pas entendu la question.
Qui doit être titulaire ?
Ramos ou Mbappé en pointe face au Barça ?
Ah, Mbappé, j'aime beaucoup Ramos, mais déjà, je ne pense pas qu'Enrique le mettra là et on n'a pas. Malheureusement, on n'a pas vu Ramos en Ligue des Champions cette année, à part à Newcastle, dans ce 4-2-4 qu'on préfère tous oublier. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour Ramos de le mettre tout de suite, alors qu'il n'a pas joué le match de poule, qu'il n'a pas joué même des bouts de match. Souvent, ce n'est pas lui qui rentre. C'est encore Colo qui rentre contre la Sociedad pour 10 minutes, ce n'est pas Ramos. Donc, Ramos, on va le garder tranquillement. Il commence à enchaîner les matchs en Ligue 1 et en Coupe de France. C'est bien, on le garde au chaud, il monte en puissance. Maintenant, pour la Ligue des Champions, ce n'est pas le bon timing pour moi.
D'accord. Alors justement, pour répondre aux commentaires, alors nous en gris, je ne suis toujours pas portugais et un jour vous arriverez à deviner de quel pays de la Méditerranée je suis originaire et bonne chance, il y en a beaucoup. Et justement, maintenant Soura, qu'est-ce que tu penses de tout ça toi ?
Je pense qu'il y a la possibilité de voir un Gonçalo Ramos titulaire pour pouvoir permettre à Kylian Mbappé d'être un peu plus libre sur son côté gauche parce que face à la Real Sociedad, Mbappé lui n'était pas neuf, même lors du match aller un petit peu, et tu avais un peu cette faculté de vouloir mettre un Ousmane Dembélé en faux numéro 9. Où ça avait permis aux ailiers d'être un peu plus libres sur leur espace. Et avec un Gonçalo Ramos qui va vraiment pouvoir, lui, avoir un peu ce rôle, pas forcément que tout le monde apprécie, mais vraiment celui de faire les courses, celui de presser les joueurs, de faire du travail un peu de l'ombre. Et là, pour le coup, ce que j'aimerais bien voir d'un Gonçalo Ramos, toute proportion gardée, mais c'est ce que pouvait faire un Cavani, c'était venir aider ses défenseurs, courir un peu partout sur le terrain pour pouvoir vraiment faire les efforts nécessaires et même couper les premières lignes de passe du FC Barcelone, parce que ça aussi, ça va être assez important. Donc, et bien entendu, de peser sur les défenses adverses, parce que ça aussi, c'est pourquoi il faut un numéro 9. Et surtout, un Ousmane Dembélé et un Kylian Mbappé sur certaines phases de jeu, essayer de centrer en direction de Gonçalo Ramos, parce que là aussi, il a la qualité et la capacité de mettre des buts de la tête.
Alors, le chat, merci de m'embêter, je ne suis ni chypriote ni grec, merci. Vas-y, Rako, je te laisse continuer. Ils sont en train de me faire dans le chat, là.
C'est une bonne question, et c'est une question auquel je pourrais répondre dans un mois, parce que pour moi, ça va dépendre aussi de la forme des deux joueurs. J'adore les deux. Ça marchait très, très bien à un moment donné avec Barcola à gauche, Mbappé en pointe et Dembélé à droite, surtout quand Mbappé décidait de jouer et de s'investir vraiment. Et de faire beaucoup plus d'appels et d'efforts. Il est beaucoup plus précieux en neuf quand il est comme ça, plutôt que quand il ne bouge pas et qu'il fait 2-3 appels, forcément, il est beaucoup plus facile à gérer pour les défenseurs. Donc, c'est vrai que ça a bien, bien marché. J'aime beaucoup Barcola. Maintenant, quand tu vois la forme du moment et quand tu vois la forme de Ramos aussi, Ramos peut t'apporter beaucoup de choses. Dans tous les cas, les deux peuvent t'apporter des choses différentes. Tu sais que le côté gauche aussi, Barcola, Nuno, ça peut bien fonctionner, mais tu as le côté gauche, Mbappé, Nuno, qui fonctionne à merveille et qui est en train de se retrouver aussi et qui fonctionne très bien. Tu as Ramos qui, quand même, peut t'apporter beaucoup de pressing, qui peut peser sur une défense, qui peut attirer les défenseurs. On sait que Koubarsi est très jeune, donc attention, pas facile de prendre un Ramos au marquage. T'as un Mbappé qui peut jouer aussi très proche de lui avec un Nuno qui prend son côté, donc le fait d'avoir Ramos dans l'axe, ça peut être très très important aussi et ça peut vraiment nous aider. Donc actuellement je te dirais Ramos parce que aussi il peut faire ce travail de décrochage et laisser du coup Dembélé à droite. Donc actuellement je te dirais Ramos. Maintenant à voir ce qui va être mis en place face à Marseille et Rennes et puis avoir la forme au moment d'aborder le Barça, mais actuellement je dirais Ramos.
Bah alors, bonne question. Alors, moi, je pense que je ne vais pas trop revenir là-dessus. Je vais plutôt vous inviter à revenir justement sur le live de hier parce que j'ai déjà parlé de tout ça. Ah, j'aime bien la ref. Peut-être que c'est pour lui que je m'appelle comme ça, peut-être. Alors, justement, bah, moi, ce que j'en pense, c'est qu'à mon avis, pour moi, tu dois faire jouer les deux. Barcola est un peu en baisse de forme. On sait également aussi que Ramos, lui, au contraire, est en hausse de forme. Donc, moi, je pense que tu dois faire jouer les joueurs qui sont en forme à l'instant T. Si au moment du match contre le FC Barcelone, bah, Ramos redescend d'un cran et que Barcola reprend justement le lead, bah, pour moi, tu dois faire jouer Barcola. Si à l'inverse, bah, Ramos prend du lead et arrive à confirmer ce qu'il est en train de faire, bah, moi, je mets justement Ramos. Donc, tu vois, je rejoins Ricoba sur le « c'est un peu trop tôt pour le dire » et forcément, tu dois être un peu sur les états de forme pour en parler. Donc maintenant, justement, je vais me permettre de sélectionner les questions que j'ai trouvées pertinentes dans le chat et je vais interviewer chacun des intervenants parce que si on répond tous à chaque question, on en a encore pour 2 heures. Donc première question, justement, alors, ah ouais, non, au final, c'est vrai que ce n'est pas tant des questions que j'ai sélectionnées, il y en a certaines, on a déjà répondu. Ben, je vais la poser à Rico, la première, la question, le commentaire me plaît, de saper comme j'allais, très belle ref. Justement, Ricoba, est-ce que pour toi, un Marquinhos à droite, ça se tente à l'aller?
Ouais, on en a répondu en début de live pour ceux qui veulent voir, on en a parlé longuement. Donc oui, moi personnellement, je le tenterai après avoir surtout la forme de Marquinhos parce que bon, il est blessé là depuis un petit moment. Donc à voir comment il revient parce qu'il faut qu'il soit à 100%. Hors de question de faire jouer un joueur qui est à 80-90%. Mais oui, pour moi, ça se tente avec Nuno plus haut et une défense à 3, Hernandez, Beraldo, Marquinhos avec un Marquis faux latéral droit. Aidé aussi par Vitinha et Warren qui pourraient venir aider justement avec une ligne un peu de 4, Nuno, Vitinha, Ruiz et Warren. Donc un Warren pourrait bloquer justement aussi Rafinha et aider Marquinhos. Donc je pense que ça pourrait être, ouais, ça pourrait se tenter. Donc si Marquinhos est en forme, c'est ce que je ferais personnellement. Je pense que c'est mieux d'avoir Warren dans le milieu et Marquis en bas à droite plutôt que d'avoir Soler ou Warren sur le côté droit où on a vu qu'on se passe trop d'un Warren au milieu et en plus de ça, défensivement, il a du mal face à des ailiers assez virevoltants.
Pose ta question, Nix. On sait que c'est toi. De toute façon, je n'ai pas la main sur la page. Hein. On sait tous qui pose la question. Quel joueur d'Arsenal on prendrait? Personne. Voilà. Bon, question suivante. Blague à part, la prochaine question.
Il en a posé une, en fait.
Attends, justement, je vais la récupérer, la question. Parce que là, j'étais justement sur le truc. Attends, quelle est la question? Voilà, c'est bon, je l'ai. Est-ce que justement, Mbappé a finalement pas choisi le meilleur moment pour annoncer son départ? Imagine la folie s'il avait fait maintenant, juste avant le Barça. Excellente question. Alors, celle-là, je vais y répondre parce que les deux autres, je voulais les garder pour Soura et pour Basto. Moi, je pense que justement, comme on avait dit, le fait qu'ils le disent même avant les huitièmes de finale, en fait, ça t'enlève une épine du pied. Tu sais déjà à quoi t'attendre pour la saison prochaine, tu as le temps de t'organiser et même en fonction de ton parcours de Ligue des Champions, tu auras des arguments pour faire des recrues pour le mercato. Donc moi, je préfère qu'on le sache maintenant, quitte à ce qu'on se dise « bon, bah, il s'en va à la fin de l'année et ça embête », plutôt que tu sais, on se retrouve coincé comme il y a 2 ans au moment de sa prolongation de contrat et on a finalement la réponse finale au mois de mai. Et en fait, tu peux stresser jusqu'au mois de mai et en fait, tu te retrouves un peu biaisé, on va dire, pour être poli sur la fin, parce que quand tu commences ton mercato en fin mai, début juin, bah, t'es déjà en retard. Donc là, au moins, on sait déjà ce qu'on doit faire. Donc finalement, je vais pas lui dire merci non plus, tu vois, mais voilà, au moins, c'est plus facile pour le PSG pour se retourner derrière. La prochaine question est pour Basto, parce que je sais qu'elle veut un petit peu le piquer, celui-là, au niveau des yeux. Est-ce qu'on ne tenterait pas Danilo au milieu contre le FC Barcelone, Basto, et pourquoi?
Ça pouvait devenir que d'Alain Philippe, cette genre de remarque.
Elle était forcément pour toi aussi, la question.
Alain Philippe, je te remercie toujours pour me lancer. Non, Danilo, déjà en défense, là, c'est compliqué. Au milieu, sa lenteur, ça manque de qualité. Enfin, c'est même pas qu'il ait une mauvaise relance, mais il est trop lent pour pouvoir vite faire des bonnes relances. Il a des trous d'air. Où il a été bon, c'est vraiment dans un rôle purement défensif sous Pochettino. Il était mis même relayeur en 8, mais dans la zone de Vinicius, et il ne s'occupait que du duel aérien et des duels en 1 contre 1. Mais on sait que le jeu de Lucho, c'est un jeu où il faut évidemment de la relance sous pression, de la qualité technique et toucher beaucoup de ballons. Donc Danilo au milieu, ce n'est pas une option pour le coach, et heureusement, et puis, parce que pour moi Danilo n'est plus en milieu depuis déjà longtemps. L'année dernière sous Galtier, ces matchs qu'il fait, c'est en défense, quand il joue au milieu c'était une catastrophe.
Exactement.
Et si c'était lui le 6 Lucho compatible, ça fait longtemps qu'il aurait déjà joué à ce poste. J'ai même envie d'ajouter.
Et dernière question. Vite fait pour vite fait pour Mister T, parce que pour le sujet Marquinhos à droite, Mister T, on te rappelle quand même que Marquinhos a joué à droite avec la Roma, a déjà joué à droite avec nous. Alors c'était il y a un petit moment. Mais quand on parle de jouer à droite, là, on ne parle pas d'un mec qui va jouer latéral droit. On parle d'un mec qui va glisser dans la défense centrale. Donc évidemment que c'est possible, et puis d'ailleurs je l'ai vu passer dans le chat, mais Arsenal le fait avec Ben White, City le fait aussi avec Walker si je ne me trompe pas, enfin il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent comme ça, donc c'est pas du tout une aberration.
Après bonne Walker question, c'est un latéral de base.
Ouais.
C'est tiens, pas un latéral de base.
Si, Walker c'est un latéral de base.
Oui. Non mais je pensais que tu avais dit que c'était pas un latéral de base, mais oui c'est un latéral de base.
Question pour toi justement Soura, est-ce que City qui se dirige sur Bruno Guimaraes, est-ce qu'il choisirait son prochain club en fonction du parcours en Ligue des Champions selon toi?
Non, sinon Gundogan ne serait pas à l'OFC Barcelone. Sinon, Bernardo Silva n'aurait pas voulu partir de Manchester City alors qu'il était champion d'Europe en titre. Moi, je pense que c'est plus une question qui englobe un peu tout. Le cadre de vie, les performances du club, le fait que tu peux jouer sur plusieurs tableaux. City, tu joues sur tous les tableaux. Paris, tu joues sur tous les tableaux. Après, j'ai l'impression, et c'est ce qui concerne de nombreux joueurs, notamment les joueurs qui jouent en Première Ligue, c'est certes le plus beau championnat du monde, le plus intense avec le meilleur niveau, mais en termes de cadre de vie, si tu enlèves Londres, il faut se mouiller la nuque. C'est pas pour rien que des Gundogan voulaient quitter à tout prix Manchester et aller à Barcelone, parce que déjà, tu joues dans un championnat où tu vas pouvoir être dans un championnat assez compétitif tout de même, même si c'est pas forcément celui du début des années 2010. Mais pour moi, franchement, non. Je pense qu'il y a une concurrence. Certes, City peut-être part avec un cran d'avance, mais on a quand même des arguments à faire valoir avec le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de parcours. Alors si jamais on faisait, je sais pas, si on faisait troisième cette saison, oui, ça aurait peut-être été plus compliqué de le faire venir. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qu'est en train de proposer Luis Enrique cette saison, tu es proche de faire un triplé, tu es en quart de finale de Ligue des Champions. Pour moi, on a des arguments à faire valoir pour faire venir Bruno.
Rico, tu avais levé le doigt, je crois.
Oui, au-delà de ça, je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a quand même un argument, c'est aussi le temps de jeu. Si Guimaraes veut être titulaire indiscutable, entre guillemets, être un joueur important et jouer, tu auras probablement plus de temps de jeu et tu seras plus facilement un joueur clé, un joueur important au Paris Saint-Germain, plutôt qu'à Manchester City, où tu seras normalement dans une rotation.
Qui dit qu'il ne jouera pas dans le pivot à côté de Rodri?
Parce que t'as Stones qui fait de grosses saisons à côté et où ça marche très bien. T'as encore des joueurs comme Kovacic, t'as encore des joueurs comme Mateus Nunez qui est arrivé. Ouais, mais t'as Mateus Nunez qui est arrivé. T'as Bernardo ou De Bruyne qui des fois jouent plus bas aussi. Ouais, mais il y a du monde. Il y a du monde.
Justement, déjà Kovacic, Kovacic n'est pas titulaire.
Ils sont souvent blessés. Pour moi, Guimaraes, il peut vraiment y jouer, avoir sa carte en étant titulaire, pas indiscutable. Parce que c'est Manchester
City. Mais pas indiscutable. Moi, tu seras un joueur plus important au Paris Saint-Germain.
Oui, ça c'est sûr et certain. Mais même en jouant beaucoup plus haut, un Mateus Nunez, c'est un joueur de rotation à la base. Kovacic, il est souvent blessé. Donc pour moi, ce n'est pas forcément le besoin de compter sur lui. Et John Stones, si ce n'est pas pour être dans le double pivot, ça sera beaucoup plus bas en défense centrale pour accompagner Ruben Dias. Et en première ligue, tu as tellement de matchs, tu as tellement de coupes qui ne servent à rien déjà de base. Mais tu as tellement de matchs à jouer que je pense que même en mettant dans la rotation, tu peux finir la saison à 35 matchs, 45 matchs.
Juste sur Kovacic, je ne comprends pas pourquoi les gens disent qu'il est tout le temps blessé. C'est un truc, alors il est blessé, mais je regarde ses dernières saisons, 49 matchs, 54 matchs, 58 matchs, 51 matchs, 57 matchs.
Merci Vasto. Oui, mais...
Attends, toi tu parles.
C'est quoi les matchs?
Attends, il y a match.
C'est vrai qu'il va
aussi. Il joue 31 sur 38, 32 sur 38.
Par match. Tant de jeux par match aussi, c'est important parce qu'il y a quand même des entrées avec les retours de blessures. Alors, je ne te dis pas qu'en mode…
Ouais, mais c'est pas, il n'est pas 4 mois par an, quoi.
Non, voilà, mais Par contre, les blessures, c'est récurrent chez lui. Tu vois, on en avait parlé l'an dernier quand je disais que Verratti partait, que j'aurais bien aimé avoir Kovacic pour le remplacer. Il y a quand même un peu le même problème, tu vois. Oui, aussi, Reggie, j'entends ton raisonnement. Mais maintenant, je vais me permettre de poser la dernière question de ce live. Et justement, la dernière, elle est-ce que pour vous, les gars, le retour à l'extérieur, c'est positif ou c'est négatif pour ce Paris Saint-Germain?
Qui commence?
Allez, vas-y, commence Réco, après ce sera Basto et après Soura.
Pour moi, c'est négatif. Pour moi, c'est négatif quand c'est toujours un point positif de recevoir au retour. Maintenant, on a l'avantage aussi de l'avoir déjà fait en huitième de finale. En plus de ça, même dans notre histoire, ce n'est pas arrivé souvent de recevoir en quart. Bon, du coup, ça nous a pas, du coup, ça nous a pas forcément toujours réussi en règle générale. Mais non, pour moi, c'est négatif forcément. L'avantage, il est au Barça. Maintenant, on a l'avantage, entre guillemets, aussi du fait que ce ne soit pas au Camp Nou. Et puis d'avoir, face à la Sociedad, bien géré le match retour là-bas. Donc, on part évidemment avec un désavantage, mais je ne pense pas que ce soit ça qui fasse vraiment la différence sur cette double confrontation.
Et décidément, on ne changera jamais une équipe qui gagne. Mais vas-y, Basto, je te laisse.
Il a très bien répondu en plus.
C'est normal de lui laisser, de lui parler de la remontada, hein, PSG-Barcelone.
C'était qui le coach qui a fait la remontada? C'était lui, justement. Ah oui. Réfléchissez plus de deux secondes, bande d'abrutis.
Ah oui, donc c'est normal de lui en parler.
C'est lui qui l'a fait.
C'est plus Aitekin, le coach de la remontada.
Alors moi, je ne reviendrai pas là-dessus, Réco, parce qu'à un moment, il fallait aussi qu'on joue au foot. Hein, on a eu ce qu'on méritait. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est les journalistes, ils ont posé la question comme si c'était Luis Enrique, le coach, qui l'avait subi la remontada. C'est lui qui l'a faite. Génie du mal.
J'ai pas vu la question.
Alors ouais, non, mais c'est pas grave. En gros, ils ont parlé de la remontada, Luis Enrique, mais c'est lui qui l'a initié.
Il est bien placé pour le savoir.
C'est pas lui qui l'a subi. Mais vas-y, Basto, je te laisse répondre à la dernière question. Est-ce que pour toi, le retour à l'extérieur est positif ou négatif?
Négatif, c'est mieux de recevoir en retour au parc. Surtout qu'on ne l'a jamais fait en quart de finale sous QSI. La seule fois où on l'a fait, c'était à huis clos. Donc, on n'a jamais eu un quart retour à domicile devant nos supporters. Maintenant, ça peut être peut-être un léger avantage si tu arrives à prendre une option au match aller. Même si, effectivement, il y a le souvenir de la remontada, mais c'était une autre époque. Et en plus, il n'y a plus les buts à l'extérieur qui comptent maintenant. Donc, si tu arrives à gagner un match au parc par deux buts d'écart, tu prends déjà une très bonne option avant le retour. Et là, ça peut être le seul point positif qu'on peut retrouver.
Soura ?
Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Alors, c'est sûr qu'il y a quand même un avantage de recevoir pour le match retour. Néanmoins, comme l'a dit Réco, ce n'est pas le Camp Nou. C'est leur stade de substitution, on va dire. Donc, ce sera pas la même ambiance, ce sera pas la même psychologie, parce qu'à chaque fois qu'on entend les joueurs parler du Camp Nou, c'est pas la même atmosphère, mais dès qu'on entend les joueurs parler du Camp Nou, tu as l'impression qu'on parle du labyrinthe où tu fais 15 km, tu n'arrives toujours pas à la surface de réparation. Donc, pour moi, ça reste quand même assez différent dans la configuration où on est. On est encore une fois bien loti, parce que c'est pas dans cette atmosphère-là qu'il sera le Camp Nou. Et pour le coup, il n'y a pas le but à l'extérieur. Et le but à l'extérieur, ça a changé énormément la donne. Quand tu prenais un but, tu étais dans une situation où, même si tu perdais, comme si c'était passé face à Dortmund, tu avais la possibilité, si tu gagnais 1-0 ou 2-0, de t'assurer la qualification et d'avoir encore le destin entre tes mains. On l'a vu lors du huitième de finale, on gagnait 2-0, on était plutôt serein. Et finalement, on a très bien géré la rencontre en gagnant 2-1. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Certes, c'est un léger désavantage, mais ce n'est pas le drame non plus de ne pas recevoir à domicile en quart de finale. D'autant plus que si on se qualifie, c'est nous qui recevrons en demi-finale retour.
Les gars, vous en pensez quoi de ce petit com là? Nous sommes l'outsider, on n'a rien à perdre. Pour vous, on est favori ou outsider?
Ah non, moi, on est favori.
J'avais dit 50-50 en vrai.
Pour moi, si on inverse.
Tu dois en mettre un devant.
Léger avantage au Barça parce que Xavi a bâti son propre groupe, a la main dessus, ça fait 3 ans qu'il est là et il gère un peu mieux son groupe. Lucho, c'est un meilleur coach pour moi, mais c'est sa première saison. Et lui, on s'est un peu foutu de sa gueule sur le mercato, on ne lui a pas trop donné de quoi faire pour qu'il mette en place son style de jeu. Donc, vraiment, ça doit être 51-49, tu vois, pour le Barça, mais c'est pas en mode 70-30 comme il y a 10 ans, tu vois. C'est outsider, mais outsider léger. C'est pas en mode... Après, on est le début du projet du PSG, on affronte le Barça Prime comme il y a 10 ans, tu vois.
Réco a raison de poser cette question, parce que c'est vrai qu'il y a, comme toujours, de l'enflammade dans un sens comme dans un autre, il y a des supporters parisiens qui se voient déjà en finale. Alors oui, c'est le tirage idéal, dans le sens où on évite le Real City, même Arsenal ou Munich, qui pour moi étaient plus dangereux pour des différentes raisons, notamment Tourelle. J'aurais eu fait des cauchemars si on avait été éliminé par Thomas Tourelle. Mais on a le tirage idéal. Mais Barça, allez, moi je dirais 55-45 pour Paris. Avec match retour au Camp Nou, ça se transforme peut-être en 50-50, effectivement. Atlético, c'est limite 55-45 pour Atlético. Donc, c'est les tirages où on a le plus de chance, mais on peut perdre en quart comme en demi, c'est évident.
Tout le monde en terre.
C'est vrai que Dortmund, ils sont déjà en jeu de l'équation, les pauvres.
Ils ont signé premier du groupe de la mort, enfin fameux groupe de la mort.
Tora, est-ce que tu as vu le calendrier de Dortmund jusqu'à la fin?
Ils ont un calendrier assez costaud.
Ouais, ils vont affronter. Non, vraiment, ils sont très très mal. Alors, merci à eux d'avoir participé jusque-là, mais là, ils affrontent l'Atlético et bonne chance à eux pour les passer. Hein, parce que
c'est vraiment, c'était pareil pour les... Mais pareil pour ouais, les mais les gars, coups, là, un gros les gars, moi je suis.
Nix, il
moi,
a
je suis d'accord.
Luis Enrique suce Colomoigny exprès en bas là.
Moi, je suis d'accord avec Soura. On a enterré. On a enterré le Borussia Dortmund depuis le début de la campagne de Ligue des Champions et ils sont toujours là. Ouais, ils finissent premiers alors qu'on les voyait tous 3-4. Le PSV, tout le monde voyait, enfin tout le monde non, mais il y en a beaucoup qui disaient le PSV va faire la surprise, pas du tout.
Ça, c'est des facteurs,
donc,
ça.
Donc attention, parce que en plus de ça, l'Atlético Madrid, pour moi, c'est une équipe qui a du mal à assumer ce statut de favori. Et je pense qu'ils sont jamais aussi bons que quand ils sont outsiders, un peu peut-être comme le PSG. Donc c'est vraiment pas fait hein, cette confrontation.
De toute façon, tout le monde arrange tout le monde cette configuration, que ce soit l'Atlético, Dortmund, le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain, pendant que les autres ils vont faire la guerre de 300. Nous, on va essayer de faire notre petit bonhomme de chemin jusqu'à la demi-finale au moins.
Alors. Justement, là, il y a un commentaire. 40,
on a Mbappé, ouais, faut
à quel moment j'ai surestimé l'Inter? Au contraire, si tu étais là dans le live hier, je leur ai tiré dessus comme il faut. Donc déjà, à un moment, si tu me tiens des propos que je tiens pas, mon grand, c'est sûr que j'aurais jamais raison. Mais bon, sur ce, en tout cas, je trouve qu'on a quand même bien développé autour du sujet. On a quand même dépassé l'heure. Je vois qu'on est 504 quand même à avoir suivi le live. Donc, j'allais vous demander de mettre un maximum de likes pour nous aider au référencement et au développement de ce live. N'hésitez pas à mettre des commentaires une fois que le live sera terminé. Si vous avez des suggestions ou des sujets ou quoi que ce soit, afin aussi d'aider au référencement, n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter aussi, hein, parce qu'il y en a qui nous suivent sur Twitter, qui nous regardent, mais qui n'oublient de s'abonner. Donc, n'hésitez surtout pas, afin de nous aider au développement et au référencement du média, à vous abonner et à liker sur toutes les plateformes sur lesquelles vous suivez ce live. Merci à Soura d'avoir été avec nous, merci à Basto d'avoir été avec nous, merci à Rekoba d'avoir été avec nous et merci à toutes les personnes qui ont été justement dans le chat avec nous, aussi bien sur YouTube que sur les autres réseaux. Merci à tous d'avoir participé et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.
C'est Paris.
Ciao, bonne journée.